à tous, bienvenue dans la chatroom sur le Techscope de ce mercredi matin. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes réveillés? Est-ce que vous êtes prêts pour cette journée? Salut les petits génies, salut Sylvain, salut Spinner, salut Technisavoir, salut Migo, salut Bobo, salut Thierry, Maël, bienvenue à toi. Je sais pas, Thierry, je sais pas si c'est le même Thierry que tout à l'heure. Tofu qui revient, Baptiste, hop, le rendez-vous du matin à ne pas manquer, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, j'ai l'impression que vous me recevez bien ce matin. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On est déjà mercredi. Ça passe trop vite, mais je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce nouveau Techscope. Tout le monde me reçoit 5 sur 5. Bon, bah, c'est parfait dans ce cas. Je te reçois pas terrible. Alors dans ce cas, c'est peut-être que ça vient de chez toi. Je t'encourage dans ce cas à peut-être redémarrer l'application, peut-être te mettre en avion et ensuite annuler l'avion pour rebooter un peu le réseau peut-être. Enfin, essayer que ton téléphone se remette un peu à zéro, essaye de redémarrer l'application. Mais a priori, on me reçoit bien, même très bien, me dit Technisavoir, 6 sur 5. Tant mieux. Merci à vous pour le retour. Bon, et ben aujourd'hui, on va quand même remercier tout spécialement 5 personnes. Est-ce que je suis en 4G? Non, je ne suis pas en 4G du tout. Je suis connectée en Wi-Fi, donc vous connaissez la connexion que j'ai. on va croiser les doigts pour qu'on n'ait pas de problème ce matin. Mais écoutez, hein, on va en profiter tant que ça marche. On va donc remercier, je vois que Samuel nous parle de Tipeee dans la chatroom, et bien justement, on va continuer avec Tipeee, remercier tout spécialement 5 personnes ce matin qui nous soutiennent depuis environ 8-7 mois. Donc un grand merci à ces 5 personnes-là qui sont Philippe, Konopko, Twitchy, Johan et Sébastien. Un grand merci à vous 5 ce matin. Vous faites partie de ces personnes qui nous soutiennent depuis pas mal de temps. Des fidèles, un grand merci à vous, c'est grâce à vous que l'aventure Naotech peut continuer, qu'on peut développer le projet, agrandir l'équipe et vous proposer toujours du meilleur contenu. Voilà, salut Olivier, bienvenue. Salut Parlons Tech. Te mettre en mode avion et jeter ton tel par la fenêtre. Non, c'est pas ce que j'ai à recommander quand même. Je sens que là, vous allez me demander de faire un dab en mode piscine, comme Jérôme l'a tweeté hier soir. Alors, on va parler de tech ce matin, DJ Fox, aujourd'hui. Alors, si tu ne connais pas l'émission, TechScope, c'est une émission qui parle de tech. Alors, de quoi on va parler? On va justement aborder le sommaire. C'est quoi les news du jour? Eh bien, les news du jour, ça concerne notamment Amazon. Amazon et d'autres géants. Quand je parle de géants, ce n'est pas forcément des géants tech, mais des sociétés très imposantes sur le marché, notamment la société de Warren Buffett et la banque JP Morgan, qui se sont associés pour se lancer dans le secteur de la santé pour leurs employés. On verra un petit peu de quoi il s'agit un peu plus en détail tout à l'heure. Et en tout cas, les sociétés qui proposent des couvertures maladies commencent un petit peu à avoir peur aux États-Unis. Et à mon avis, elles ont raison. On parlera d'une société française aussi ce matin, Cocorico, et c'est Blablacar. Blablacar qui refait peau neuve. Mais même plus que ça, donc en plus de mettre à jour leur identité, leur marque, ils vont également perfectionner leur service dans des villes un peu plus petites. Vous savez que Blablacar a raison, a commencé dans les grandes villes pour faire des partages de trajets. Et bien là, justement, ils vont se diversifier un petit peu plus et essayer d'atteindre d'autres types de besoins dans des villes un peu plus petites. Et c'est assez intéressant. Et puis, on parlera aussi de Google. Google et HTC, dont la relation se resserre. Ils se rapprochent de plus en plus puisque Google a même carrément racheté toute une partie des équipes de HTC qui concerne plus particulièrement la division smartphone, hardware, avec qui notamment ils avaient travaillé pour faire les pixels. Et c'est pas rien, hein. C'est plus de même 2000 ingénieurs qui vont rejoindre les rangs de Google. Donc on verra un petit peu les détails de ce deal tout à l'heure. Voilà, et puis on continuera avec Huawei qui va pas très très bien, et en tout cas sa présence et son plan de développement aux États-Unis est de plus en plus compromis. Vous savez qu'au CES, je vous avais parlé lors du CES du retrait d'AT&T pour le deal qu'ils avaient prévu pour commercialiser le Huawei Mate 10 Pro, et ils s'étaient un peu retirés au dernier moment de l'accord. Et ben c'est pas les seuls, Verizon maintenant aussi vont arrêter leur plan de distribution des smartphones Huawei. Donc ça sent pas bon pour le développement aux États-Unis. Alors vous me dites qu'il y a un reflet. Il y a un reflet, peut-être là, hop, hop. Je brille. Ah oui, non, c'est toujours le même reflet ici, là. Hop, ici. Oui, c'est un reflet, je n'y peux rien, ce n'est pas une tache sur la caméra, je vous rassure, mais c'est selon l'éclairage, en effet, ça fait des petits effets. Je m'excuse. En même temps, on s'en fout de ma gueule. Ce qui est important, c'est les news ce matin. Mais merci de vous en inquiéter quand même. Et puis on parlera aussi d'Instagram. on parlera d'Instagram, mais là je pense que c'est les community managers qui vont se frotter les mains, qui vont être très très contents de cette nouvelle. Ça va être notamment l'ouverture aux applications tierces de la possibilité de planifier des posts sur Instagram. Enfin, donc c'est pas une fonctionnalité qui arrive directement dans Instagram, mais c'est des services qui vont pouvoir développer cette fonctionnalité pour Instagram. Donc une belle compatibilité, et ce qui va simplifier, je pense, le travail de pas mal de personnes. Le reflet gate, tout à fait l'œuf. Enfin, le reflet gate, c'est moins embêtant que l'autofocus gate dont était victime Langue de Geek la semaine dernière. Enfin bon. Et puis on parlera aussi de Facebook qui n'en finit pas d'énerver un petit peu le public. Marion a du flair. Joli, joli. Et en effet, cette fois-ci, donc c'est pas avec les fake news, c'est pas avec les publicités, c'est pas avec les publicités qui essayent de miner des crypto-monnaies pendant que vous naviguez sur les sites internet, même si ça fait partie des news. On va parler plus précisément ici des enfants qui sont touchés par la vague Facebook, et notamment avec l'application Messenger Kids, et comment un groupe a essayé a écrit et a envoyé une lettre à Facebook pour leur demander de fermer l'application Messenger Kids pour protéger les plus jeunes des effets néfastes de la consommation et surconsommation des réseaux sociaux, des smartphones, voilà, pour le développement de l'enfant. C'est assez intéressant, on l'abordera tout à l'heure. Et puis on terminera la journée en parlant de Spotify. Enfin, pas la journée, mais l'émission, hein, parce que terminer la journée à 9h du matin, ça s'appelle être un chat. mais non, on terminera avec Spotify qui nous concocte des petites choses dans son labo d'expérimentation. Et cette fois-ci, il lance une expérimentation sur la plateforme Android, plus spécifiquement sur les smartphones en Australie. Donc n'essayez pas de vous jeter sur le Play Store pour essayer de trouver la dernière application Spotify, vous ne la trouverez pas. Mais c'est une application disponible en Australie qui va vous proposer une manière d'écouter plus, comment dire, relaxante, sans effort. C'est surtout ça, sans effort, des playlists de Spotify personnalisées en fonction de ce que Spotify connaît de vous en tant que écouteur de musique. Je ne sais plus. Voilà, un fan de musique. Voilà. C'était quoi le petit fail? J'ai raté le petit fail. Salut, salut à ceux qui arrivent. Bienvenue. C'est toujours le début de l'émission. Voilà. Je vous propose du coup, sans plus tarder, il est 8h10, on va commencer avec le premier article. Si vous êtes prêts dans la chatroom, et j'ai l'impression que vous êtes dans les starting blocks ce matin, j'espère que vous avez votre thé, votre café, votre petit jus d'orange, bref, ce qui vous booste pour bien commencer la journée. Et exactement, Sylvain, on va commencer d'Amazon qui veut s'occuper de notre santé. Ne pars pas en dépression, rassure-toi, justement, c'est intéressant, on va en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le sujet de la couverture de santé aux États-Unis est un vrai problème. C'est un vrai problème social pour les personnes qui ont un boulot et celles qui malheureusement n'ont pas la possibilité d'avoir un travail, qui n'ont pas encore trouvé un travail. Alors après, il y a des lois qui sont passées hein, pour obliger les sociétés de plus de 50 employés de offrir dans le package emploi évidemment une couverture médicale. Mais malheureusement, avec les taxes, etc., qui sont appliquées sur les sociétés, ça rend l'accès à la couverture médicale pour les sociétés avec des employés avec moins de 50 employés assez difficile. Et du coup, de moins en moins de sociétés de moins de 50 employés peuvent proposer des couvertures médicales. Et les coûts que cela impacte sur les autres sociétés avec cette obligation, voilà, il y a certaines sociétés de couverture médicale qui en profitent et qui font augmenter les prix. Et donc, le coût de cette couverture est assez importante et fait pression notamment sur les sociétés, évidemment sur les personnes, mais aussi sur les sociétés avec cette loi qui est passée. Et donc du coup, c'est Amazon, la société de Warren Buffett, donc Berkshire Hathaway, et la banque de New York JP Morgan, très très connue, c'est trois grands groupes, trois énormes groupes même américains, qui vont s'associer pour créer une couverture médicale à destination de leurs employés et de leur famille, évidemment, par extension, afin de pouvoir enfin, mutualiser les coûts et proposer une couverture médicale plus optimisée sans impacter trop fortement, ou en tout cas trop négativement, comme a priori c'est le cas pour ces trois sociétés-là, l'impact de cette couverture médicale. Donc en gros, ils vont repenser un petit peu la couverture médicale. Le but de cette société, et ce qui est intéressant, c'est pas forcément de faire du profit, mais de pouvoir proposer un meilleur rapport coût de couverture médicale et couverture médicale performante pour les employés en mutualisant ça entre les trois groupes. Donc dans un premier temps, ils vont a priori lancer ça pour leurs employés. Il n'y a pas pour l'instant d'annonce sur une possibilité d'entrée sur le marché en tant que concurrence pour les autres couvertures médicales sur les autres sociétés. Mais Amazon s'occupe bien de ses enfants consommateurs, c'est un peu ça. Alors oui, évidemment, Amazon et ses trois sociétés ne font pas ça de gaieté de cœur. C'est juste qu'ils veulent avoir une offre plus intéressante et moins coûteuse pour les sociétés, hein, pour les professionnels, pour ces sociétés qui se doivent et qui ont l'obligation maintenant de proposer une couverture médicale, et plus avantageuse aussi pour leurs employés, parce qu'ils ne sont pas niais aussi, la couverture médicale est un grand atout pour faire venir et attirer aussi les personnes pour les emplois et pour l'emploi. Et aujourd'hui, on a un problème où il n'y a peut-être pas suffisamment de compétition sur le marché des couvertures médicales aux États-Unis, que le marché n'est peut-être pas forcément très très mature et que du coup, les coûts impactés sur les entreprises pour les couvertures médicales ne sont pas très intéressants par rapport à la qualité de la couverture médicale. Donc, c'est peut-être là où ils veulent revoir un peu le système, augmenter un petit peu la compétition et remettre un peu les cartes sur table pour encourager et challenger un peu le marché des couvertures de santé. Donc moi je trouve ça intéressant à voir ce qu'ils vont proposer, à voir aussi comment ça va perturber le marché. Alors je ne vous cache pas qu'on a très très peu d'informations, ça a été plutôt une annonce qui a été faite plutôt qu'un vrai projet lancé avec des détails, des informations qui sont divulguées. Là, pour l'instant, c'est vraiment juste une annonce. Comme je vous disais, on ne sait pas encore leur plan sur le développement en dehors de leur propre société, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a bien fait peur et ça a bien impacté la bourse, car les différentes actions des autres couvertures médicales qui sont proposées ont baissé, ont pas mal chuté. Et oui, quand on pense que ces trois géants vont s'associer pour challenger un peu le marché de l'assurance maladie, et ben évidemment, c'est pas rien, c'est une sacrée annonce et ça fait longtemps, hein, ça faisait longtemps aussi qu'Amazon scrutait un petit peu le terrain des soins de santé Donc, c'est pas étonnant qu'il se lance enfin. Je pense qu'en effet, il voulait peut-être pas se lancer seul. Et là, pouvoir avoir un pool d'employés et de consommateurs de la couverture médicale telle que ces trois sociétés le proposent, c'est une bonne base de départ pour déployer leur offre. En tout cas, c'est assez intéressant et il y a vraiment de quoi faire pour challenger et améliorer le marché des couvertures médicales aux États-Unis. Nous, on est quand même dans un pays qui a quand même relativement pris soin de cet aspect-là pour les employés et pour les particuliers en général. I'm sorry, Unbox Texcular, I'm speaking to you in English because I'm not speaking, I don't speak Spanish or my Spanish is too rusty. I'm sorry. It's a French tech show, so we won't speak Spanish. But thank you for watching. How do I learn French? Maybe try to use some French subtitles when you watch TV show. pas de sécu à la française aux US, ouais, c'est ça. C'est une vraie problématique, hein, la couverture médicale aux États-Unis. Hein. C'est vraiment pas du tout les mêmes problématiques qu'en France. Nous, on est relativement privilégiés, hein, en France. Oui, Davis, Benoni, en effet, ils ne font pas ça par bonté. Ils font ça évidemment par intérêt de business, mais également aussi pour proposer, parce qu'il ne faut pas être naïf non plus, pour proposer des couvertures médicales plus intéressantes potentiellement pour leurs employés et tout en ayant des coûts plus intéressants aussi, un rapport qualité-coût meilleur. Voilà pour la news. Ce qui est étonnant, c'est que Google ne le fasse pas puisqu'ils sont dans la santé aussi. Oui, Jérôme, c'est pas bête du tout ce que tu dis. Après, Google, je pense qu'ils sont sur beaucoup de choses en même temps. Qu'aujourd'hui, je veux dire, Amazon aussi est sur beaucoup de choses en même temps et c'est un vrai parti pris, un vrai choix stratégique business de s'orienter là-dessus. Je pense que voilà, c'est un choix qu'a fait Amazon parce qu'ils savent qu'il y a une vraie demande et un vrai problème et une vraie opportunité de business sur le sol américain sur ce sujet-là. Après, Google, ouais, ils ne se sont pas pour l'instant intéressés au sujet. Oui, je ne dis pas que Google ne fait pas beaucoup pour les employés, hein, loin de là. Hein. Voilà pour la news. Salut, 8h, bienvenue à toi. On enchaîne avec la seconde news du jour et je pense que ça va vous faire particulièrement plaisir dans la chatroom parce que on va parler d'une de nos sociétés phares françaises qui fait pas mal parler d'elle, c'est BlaBlaCar. C'est BlaBlaCar, donc ce service de partage de courses de voitures. Comment dire? C'est ça en fait. Il y a un conducteur qui se propose de faire un trajet de temps en temps ou régulièrement et des personnes qui sont en recherche de moyens de locomotion pour effectuer les mêmes trajets ou une partie d'un trajet commun vont pouvoir profiter de ce conducteur. Donc c'est Riku de Sama nous dit que c'est génial, BlaBlaCar. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous. Voilà, merci. C'est le covoiturage, Henri. Merci beaucoup pour le mot. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous hein, dans la chatroom qui ont déjà, je pense, utilisé le service. C'est un service, pardon, très, très populaire qui a pas mal explosé ces dernières années. Tout le monde n'a pas envie de payer les coûts d'entretien d'une voiture. Parce que c'est quand même pas rien, et surtout quand on vit dans une grande ville, des fois on se met à privilégier les transports en commun plutôt que de prendre sa voiture, ce qui parfois est plus économique et moins embêtant avec les embouteillages qui augmentent, etc. dans les différentes villes. Et donc du coup, ce secteur s'est pas mal développé dans les dernières années. Et du coup, BlaBlaCar a bien su se positionner et un peu le premier service, dites-moi hein, si je me trompe, mais moi quand je pense covoiturage, j'avoue que c'est BlaBlaCar auquel je pense. Alors peut-être que c'est parce que c'est une société particulièrement connue dans le monde de la tech, peut-être qu'au niveau du grand public, c'est peut-être pas la même vision qu'on a, mais en tout cas, moi quand je pense au covoiturage, c'est vrai que mon premier réflexe, c'est BlaBlaCar. Alors personnellement, je n'ai jamais fait l'expérience de covoiturage. Pourquoi? Parce que je suis malade en transport, je suis pas très très bien, donc vaut mieux pas me parler. En gros, je préfère qu'on me laisse tranquille. Donc l'idée de devoir faire la conversation durant un trajet m'angoisse au plus haut point, surtout avec un inconnu, surtout si je suis malade, etc. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'ai jamais testé le service, mais je trouve l'idée géniale, plus économique, plus écologique, et en plus d'un point de vue connexion humaine, on peut faire des rencontres tout à fait intéressantes. À 7-8 euros pour aller à Paris au lieu de 24 en train, il n'y a pas photo. C'est clair que Cast Girl, pardon, comme tu dis, il y a vraiment des prix qui sont très intéressants. Après, c'est un rapport temps-prix, évidemment, qui est intéressant à avoir. Profil de Marion, me parle pas, sinon je te vomis dessus. C'est à peu près ça, Tofu Sauvage. Tu as bien résumé mon profil. Jérôme me connaît bien quand on voyage ensemble. Colmar-Lille, 180 euros en train et 30 euros via Blablacar pour plus court. Ah, tu prends en plus, ça dure moins longtemps. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, vous êtes assez connaisseurs, j'ai l'impression, dans la chatroom. Eh ben, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, hier soir, j'ai eu la surprise de me rendre compte. Je suis tombée sur un article vraiment un peu au hasard, un peu au dernier moment, sur Blablacar qui a. Quand je voyage avec Marion, Jérôme doit se taire. Donc je suis tombée sur un article qui parlait donc de l'identité de la marque Blablacar, de la plateforme Blablacar, qui se refait un peu une beauté, qui a mûri un petit peu en termes d'image de marque, et donc avec un nouveau logo, un nouveau positionnement plutôt centré sur l'humain, sur les connexions entre les différents humains, entre le conducteur et le passager, qui vont le temps d'un trajet faire connaissance, et c'est la notion de rencontre qui est mise en avant. Donc là, je vous montre un petit peu la photo, le visuel. Alors attendez, il faut que je baisse un petit peu la luminosité, sinon vous n'allez rien voir. Alors, est-ce que vous voyez mieux? Ouais, là, vous voyez un petit peu mieux. C'est pas génial, génial. Là, en fait, vous voyez donc une photo de deux personnes qui s'enlacent, qui se remercient, ou en tout cas, voilà, il y a un vrai rapprochement humain entre ces deux personnes. Et ah ben voilà, là, vous voyez mieux le logo. Et donc, vous voyez le nouveau logo de BlaBlaCar qui joue avec la notion de B ici, de B minuscule. Également la notion de quote, donc la notion de discussion, d'échange et de contact humain. Et après, on peut s'amuser à avoir un côté un peu plus léger en se disant que ça ressemble peut-être à des roues, un peu à une voiture très très stylisée, etc. En plus, ça, c'est assez mobile, ça bouge pas mal. Donc voilà. La SNCF va lancer oui, car. Ça fait plus sérieux, l'ancien logo était trop fun. Ludovic, tout à fait. En fait, on sent hein, que la société comment dire, devient un peu plus corporate, un peu plus sérieuse, tout en gardant l'aspect quand même humain, un peu léger. Alors, ça se voit peut-être pas tant que ça dans le logo. Je vais peut-être essayer de vous montrer la vidéo. Alors, attendez. J'ai un petit problème, j'aurais dû le préparer avant, j'avais oublié que je ne pouvais pas accéder à la vidéo par là. Blabla car. Et je vais essayer de vous montrer un petit extrait de la vidéo animée. Voilà, je tombe sur l'article. Donc voilà, là c'est un peu petit. Alors attendez. Voilà, là j'ai la vidéo. Et là, vous voyez, vous avez donc une vidéo toute animation, tout en animation, et le premier mot, c'est les relations humaines. Donc ça va vraiment juste parler du contact, du rapprochement entre plusieurs personnes pour effectuer le trajet, pour se rencontrer le temps de quelques minutes, quelques heures, pour partager un moment ensemble, tout en simplifiant la vie de chacun. La personne qui voyage amortit le coût de son trajet en voiture et la personne qui cherchait un moyen de locomotion, comme vous voyez avec cette personne-là qui galère avec les différentes correspondances pour aller prendre son train, entre les transports en commun, le train, le bus, le métro, etc. et la simplification avec un trajet unique en voiture. Donc c'est assez intéressant hein, comme parti pris. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Airbnb aussi. Lorsqu'ils avaient fait mûrir leur image de marque, ils avaient aussi mis au centre de leur nouvelle image de marque la notion d'échange, de contact humain, de partage de bons plans. C'est pour ça aussi qu'il y a les notions d'expérience où quelqu'un vous aide à voyager et à faire connaissance avec le lieu où vous voyagez. Donc voilà le logo de manière un peu plus grande. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle, j'allais dire, maturation. En tout cas, c'est une belle étape pour Blablacar. Ça fait toujours plaisir hein, de voir une société française comme ça s'épanouir et se développer de cette manière-là. En tout cas, voilà, bah, ça m'intéresse de voir si vous testez les applications avec la nouvelle identité, si le ton a beaucoup changé, si l'interface a beaucoup changé, etc. Parce que moi, comme je ne connaissais pas le service, je ne l'ai jamais utilisé, je ne vais pas pouvoir trop comparer. Mais voilà. Ça va être intéressant. Et donc, du coup, Blablacar, en plus de son image de carte, son image de marque, pardon, excusez-moi, va également essayer de cibler les villes un peu plus petites. Aujourd'hui, il y a 60 millions d'utilisateurs hein, qui utilisent la plateforme. Et ben, ils veulent évidemment agrandir cette base d'utilisateurs, faire grandir cette base d'utilisateurs en pouvant en déployer un petit peu le service dans les villes un peu moins desservies, un peu moins bien connectées que les grandes villes pour pouvoir toucher plus de monde. Le problème parfois, c'est les annulations de dernière minute. Ouais, alors ça, Castgirl, je suis complètement d'accord avec toi, c'est assez galère. Après, je ne sais pas si ça arrive souvent. Ah, a priori, Tofu Sauvage connaît le problème aussi. Le logo est simple et sobre, j'adore. Ouais, moi je trouve qu'il est assez efficace, tout à fait. Et on garde, certes, ça devient un peu plus corporate, mais on garde quand même l'aspect sympathie. Voilà, vous allez voir si vous regardez la vidéo dans l'article, il y a quand même une animation avec le logo, etc. C'est, voilà, c'est, ça reste assez léger, une notion de connexion, d'échange. Ça se rend, ça se fait pas trop sérieux non plus. Ah ça oui, il n'y a rien de sûr quand tu prends un Blablacar. Ouais. Voilà pour la société Blablacar. Et puis, on va enchaîner avec Google. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais on trouve autre chose quand c'est voyage fréquenté, ça va. Ouais, quand c'est des trajets fréquentés, ouais, mais bon, c'est toujours quand même embêtant, quoi. Tofu nous dit qu'elle a quand même eu beaucoup plus de bonnes expériences que de mauvaises avec Blablacar. Bon, bah tant mieux. De toute façon, hein, c'est pas pour rien, à mon avis, qu'ils ont du succès. Hein. On continue avec Google. Qu'est-ce qui se passe avec Google? Eh bien, tout simplement, c'est Google et HTC qui se rapprochent encore plus. Alors, vous savez que HTC avait déjà travaillé avec Google pour concevoir et produire le Pixel Phone de Google. Voilà, qui a été vendu ben, c'était l'année dernière, enfin Pixel et Pixel 2 d'ailleurs, et ben maintenant Google va essayer de se relancer dans le hardware carrément en incluant la division d'HTC dédiée aux smartphones directement dans les effectifs de Google. Donc tout simplement, Google a mis sur la table un accord de 1,1 milliard de dollars pour ben, acquérir les talents de HTC, les ingénieurs. Donc c'est plus de 2000 ingénieurs qui sont basés à Taïwan et qui vont rester d'ailleurs à Taïwan pour pouvoir carrément internaliser la production des smartphones de Google. Je vous rappelle, Pixel, Pixel 2 se positionnent quand même comme des smartphones plutôt haut de gamme pour plutôt concurrencer les smartphones Apple, hein, les iPhones. Donc c'est assez intéressant à voir un petit peu s'ils vont réussir de nouveau cet essai-là. Je crois que c'était Google hein, qui avait à un moment donné acquis Motorola. Finalement, ça n'avait pas été très très performant et je crois qu'ils avaient revendu. Ou, je ne connais plus les détails des transactions, mais je sais que les dernières tentatives d'entrer dans le hardware pour Google, c'était pas très bien terminé, notamment hardware smartphone, c'était pas forcément très bien terminé ou couronné de succès. Donc à voir comment ce nouvel essai avec cette fois-ci les effectifs de HTC, les talents de chez HTC va booster un petit peu la division smartphone de Google. Oui, c'est ça, Google et Motorola. Et Google, au final, n'a gardé que les brevets. Merci beaucoup, Ludovic, pour ta précision. J'avais plus tous les détails en tête, mais il me semblait bien que c'était ça. Donc, à voir pour ce deuxième essai. On sent hein, que Google ne veut pas lâcher le morceau. Et à mon avis, ils ont raison. Hein, une meilleure communication et collaboration entre le hardware et le software va jouer énormément dans la qualité de ces smartphones qui sont censés se positionner sur du haut de gamme. Donc, c'est très, très intéressant à suivre. Ah, ils en avaient déjà parlé en novembre. D'accord, j'avais complètement zappé, tu vois, Ludovic. Moi, je viens de l'apprendre là. Et donc là, ben, c'est bien acté. C'est bien acté, donc, puisque le deal vient d'être signé pour ça. Ouais, espérons que la collaboration sera au top, ouais. Ce qui est un peu rassurant, donc un peu comme Motorola aussi à l'époque, c'est qu'ils ne l'ont pas racheté au hasard, c'est-à-dire qu'ils ont déjà collaboré pas mal de temps avec HTC. Maintenant, à voir comment l'équipe va s'intégrer directement dans les processus de Google, si ça va bien se passer aussi. En tout cas, on croise les doigts et on a hâte de voir ce que ça va donner dans les temps à venir. Mais en tout cas, c'est voilà, Google ne lâche pas le morceau avec le hardware smartphone. Et puis, on continue aussi avec Verizon. Donc là, on va parler encore smartphone, mais on va parler aussi Huawei. Huawei, donc, comme vous le savez, hein, une des marques phares chinoises, essaye désespérément depuis, pas désespérément, mais depuis quelques années, de faire son entrée sur le marché américain. C'est un gros enjeu, évidemment, pour la marque et pour son business. Et malheureusement, il se heurte à de la méfiance, notamment du gouvernement américain, qui a issu des avertissements, notamment aux distributeurs de téléphones mobiles, donc comme AT&T, Verizon et compagnie. Vous savez qu'aux États-Unis, en France aussi, mais peut-être un peu moins, j'ai du mal à voir, mais je crois que chez nous, c'est quand même assez important aussi. Le grand public achète ses téléphones, ses smartphones via des distributeurs et des opérateurs voilà, qui proposent des forfaits. Et avec le forfait, vous avez un smartphone, vous l'achetez directement en boutique chez l'opérateur. Et c'est un peu eux qui dominent le marché. Si vous n'êtes pas distribué via l'opérateur, il y a peu de chances que vous touchiez le grand public. Et donc du coup, bah, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je vous l'avais dit hein, lors de l'événement du CES, comme quoi AT&T s'était retiré du deal de distribution du Huawei Mate 10 Pro et donc bah, Huawei avait fait enfin le CEO de Huawei avait fait une belle sortie au CES pour parler de ce problème-là et avait promis que le Huawei Mate 10 Pro, je sais jamais dans quel sens le dire, allait être distribué sur des plateformes marchandes comme Amazon, Best Buy et compagnie, donc que la population américaine aurait quand même un moyen facile de se procurer le téléphone, mais il ne faut pas être évidemment naïf. Ça s'adresse, les plateformes commerciales de Internet, ce genre de choses, vont s'adresser à des personnes qui s'y connaissent déjà malheureusement. Et le fait que ça ne soit pas en boutique, ça va évidemment porter préjudice à la stratégie de développement sur le marché américain. Oui, alors évidemment, vous ne vous sentez pas concerné dans la chatroom, comme nous dit Nicolas, mais nous, on est des connaisseurs. Je veux dire, voilà, vous regardez une émission tech le matin, vous connaissez les marques qui sont intéressantes, vous avez un regard averti sur la concurrence, sur le marché des smartphones, et vous n'avez pas peur de vous procurer un smartphone sur les plateformes. C'est pas la même chose pour le grand public, évidemment, qui n'a pas dans sa famille quelqu'un comme vous à qui demander conseil. Donc, c'est ça qui est plus compliqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, après AT&T, ben, évidemment, c'est Verizon qui a stoppé les plans de distribution du smartphone de Huawei. Donc là, c'est un autre gros coup dur pour Huawei, hein, qui n'a plus de distributeur, du coup, sur le marché américain. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était vraiment avec ces deux-là qu'ils avaient des plans de distribution. Et encore une fois, ça vient de la pression appliquée par le gouvernement américain par rapport à la marque Huawei, marque chinoise, sous des craintes d'espionnage chinois, d'accès, de traitement des données et d'accès des données des utilisateurs américains par le gouvernement chinois. Voilà. Et donc, c'est un vrai, évidemment, hein, c'est une vraie préoccupation. Et on assiste à un vrai bras de fer numérique entre la dominance chinoise et la dominance américaine. Voilà, après la Chine a quand même un poids indéniable, même si les États-Unis aussi, à voir ce qui va se passer dans les temps à venir. Voilà, on voit que la Chine a serré la vis avec certaines sociétés américaines, et bien les Américains font la même chose. Voilà, à voir ce que ça va donner dans les temps prochains, mais en tout cas, les plans de développement de Huawei aux États-Unis semblent fortement compromis. En tout cas pour 2018. Voilà. Ouais, vous n'êtes pas étonnés, hein. Quid de Oppo, je crois que ça reste quand même une petite marque, non? Meizu France s'est finalement planté chez nous. Ouais. En France, ils ont réussi à remplacer Cisco chez Orange. Oui, enfin, c'est pas la même chose quand même. On parle pas tout à fait de la même chose. Oppo, c'est assez gros en Chine. D'accord, je ne savais pas, Jérôme. Merci pour la taille. Je ne savais pas. Les deux marques, je crois que c'était Huawei et. Je crois que c'est. Je suis pas sûre. Est-ce que c'est OnePlus, les deux marques chinoises les plus grosses? Je ne me souviens plus, en Chine. Huawei sont redoutables, ils ne lâchent rien. Ouais. Ouais. Voilà pour Verizon. En tout cas, c'est pas facile pour eux, hein. Début d'année 2018, ils se prennent des bâtons dans les roues de manière répétée. Oppo, Vivo et Huawei en Chine. Et puis on va parler un petit peu d'Instagram. Instagram, alors qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est une news qui va intéresser plus particulièrement les community managers, les personnes qui travaillent notamment au contenu sur les réseaux sociaux, à la communication sur les réseaux sociaux, et évidemment qui doivent coordonner bah, plusieurs comptes, plusieurs plateformes avec des manières de poster différentes, une audience potentiellement différente et une manière de consommer l'information différente sur les différents réseaux. Donc ça ajoute énormément de complexité, hein. Et surtout, ce qui était pénible jusqu'ici sur Instagram, c'est qu'il n'y avait pas la possibilité de planifier des posts. Parce qu'Instagram voulait mettre en avant l'immédiateté des posts bah, faits au moment T pour privilégier, c'est ça, l'immédiateté. Et bien là, voilà, il s'éloigne un petit peu de cette notion-là. En autorisant des services tierces d'autoriser donc la planification de posts sur Instagram. Donc ça, c'est intéressant. Donc pour ceux qui sont dans le domaine, bah, vous connaissez sûrement les outils comme Hootsuite, Sprout Social, etc. Ce sont des outils qui vous permettent de manager, enfin de gérer, hein, les différents comptes sur les réseaux sociaux et donc de planifier les différents posts, etc. pour avoir une meilleure stratégie de communication sur les réseaux sociaux pour les marques et c'était pas encore disponible. Maintenant, Instagram l'autorise. Alors, encore une fois, c'est pas un outil intégré directement à Instagram, mais généralement, quand vous gérez plusieurs comptes et que vous avez une vraie stratégie de communication, vous utilisez ce genre de plateformes tierces qui sont généralement payantes. Planifier, c'est quand même super quand on a plusieurs comptes et parfois un public sur autre fuseau horaire. C'est clair, Casgirl, c'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis. C'est clair que quand on a des créneaux horaires différents, bah, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir la possibilité de planifier. Moi, je sais que je l'utilise, hein, mais à petite échelle, c'est-à-dire que sur TweetDeck, moi, j'utilise TweetDeck pour Twitter et j'ai différents comptes dessus. J'ai mon compte personnel, Isia Design, j'ai mon compte, j'ai le compte Naotech TV. Et j'ai mon compte de mon blog de musique, White Session. Je vous rassure, je suis pas très très active dessus. Mais du coup, ça me permet, quand j'ai un article de la semaine, de planifier la sortie de l'article et de planifier également le partage de l'article sur les réseaux sociaux sans avoir besoin d'interrompre mon travail dans la journée pour poster le tweet. Donc je le prépare le soir ou le matin et comme ça il se poste tout seul dans la journée et j'ai pas besoin de m'en occuper. Donc c'est quand même assez pratique. Une API plus ouverte, ouais, qui laisse la possibilité d'accéder à la planification, tout à fait. Marrant, on ne peut pas parler en anglais sur la chatroom, mais donner des articles dans cette langue-là, oui. Bah, en Francis, tout simplement, pourquoi on donne des articles dans cette langue-là? Parce que, avec le décalage horaire, généralement, les news les plus fraîches sont en anglais. Donc, nous, en effet, on fait notre veille pour vous donner les actus les plus fraîches, principalement en anglais, même si c'est pas que, on les donne quand même principalement en anglais. Après, parce qu'on fait une émission en français, voilà, c'est bien de privilégier le français. Après, s'il y a de l'anglais, bon, c'est pas très grave, mais on privilégie quand même le français-anglais dans la chatroom. Voilà l'explication. Oui, moi je planifie depuis TweetDeck, tout à fait, Nicolas. Oui, mais je répondais à ta remarque, hein, Francis, pas de mal, mais je t'expliquais justement parce que c'était une remarque intéressante et c'est pour ça que je t'expliquais la notion de pourquoi on choisissait majoritairement des articles en anglais. Mais un peu moins de temps en temps quand même. Et du coup, oui, c'est disponible sur Flipboard. Ah oui, mais si tu autorises l'anglais dans la chatroom, tu dois autoriser une troisième langue pour être conforme à la loi. Alors après, on n'interdit pas hein, les autres langues, c'est juste qu'il ne faut pas persister, c'est-à-dire qu'on met des warnings. Sylvain, coucou Marion, petit nouveau ici, c'est sympa cette émission. Ben, bienvenue à toi Sylvain, ça fait plaisir si tu découvres la chaîne. Bienvenue à toi. Voilà, le ch'ti ça marche. Alors j'ai quelques bases de ch'ti, mais alors je vais avoir du mal à faire toute une émission en ch'ti. Vous voyez que déjà je galère avec deux langues où je fais des anglicismes régulièrement. Je m'en excuse, j'essaie de faire attention, mais c'est un peu compliqué justement parce que les articles sont en anglais, donc du coup mon esprit switch facilement. Une démo, non, j'oserais pas, je n'oserais pas trahir le ch'ti, même si j'adore cette région et les gens là-bas. Alors le basque aussi, hein, j'ai quelques mots, mais vraiment quelques mots, parce que comme quand vous êtes au Pays Basque, vous avez le double langage sur les panneaux, on a des mots qui reviennent assez souvent. Vas-y, Bilout. Enfin bref, voilà pour Instagram et les langues. Alors le breton par contre, non, là je suis un peu inculte. S'il y a bien un endroit auquel je ne suis jamais allée, c'est la Bretagne et j'ai vraiment très envie d'aller découvrir cette région. Oui, Ongi et Tori, tout à fait. Je ne sais pas d'ailleurs si je le prononce bien, mais bienvenue. Tout à fait. Du petit basque dans la chatroom. Vous me déconcentrez, hein. Comment on a fini par parler ch'ti et basque? La Bretagne, c'est magnifique, ça je le sais. Ça fait longtemps que je bave sur les photos, les paysages que je peux voir un peu partout. Et ça fait longtemps que je rêve d'aller en Bretagne. Il faut vraiment, vraiment que j'y aille. Ah, les Basques. Focus Marion, tu as raison, pole position, tu as raison de me faire un petit rappel à l'ordre. Et du coup, on enchaîne avec l'autre news. Et l'autre news, ça concerne Facebook. Facebook, et je trouvais la news assez intéressante. Alors, on tape beaucoup hein, sur Facebook dernièrement, et sur d'autres géants de la tech, sur Google, sur YouTube, etc. Pourquoi? Parce que évidemment, leur poids, le poids qu'ils représentent sur Internet, dans les nouveaux moyens de communiquer, de contenu, etc., bah, leur donne une vraie responsabilité et impacte les comportements, notre société, etc. Donc évidemment, on a tendance à très vite s'offusquer, très vite taper dessus et à attendre beaucoup d'eux. Parce qu'avec évidemment, avec cette taille-là, ils ont énorme, viennent des responsabilités et ils doivent évidemment y faire face. Et du coup, dans cette même veine, il y a notamment un groupe qui a envoyé une lettre ouverte à Facebook, notamment à Mark Zuckerberg, au CEO, pour parler de l'application Messenger Kids. Messenger Kids, donc c'est l'équivalent de Messenger, mais pour les enfants qui ont moins de 13 ans. Vous savez que sur les réseaux sociaux, normalement, pour vous créer un compte, il faut avoir un minimum de 13 ans, même si vous pouvez faire facilement leurrer le système en changeant la date de naissance, etc., pour passer cette porte d'âge, cette limitation d'âge. Mais par contre, voilà, Facebook, s'il détecte un compte géré par une personne qui a moins de 13 ans, fermera ce compte. C'est dans les conditions générales d'utilisation du réseau social. Mais du coup, Messenger Kids, justement, target les enfants, vise les enfants qui ont moins de 13 ans. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'a priori, Messenger Kids, c'est pour permettre une manière de communiquer facilement avec la famille, se rapprocher plus vite des proches, pouvoir avoir un accès facile, sécurisé, protégé à la famille dans une communication voilà, plus bloquée. Hein. Vous n'aurez pas forcément accès au réseau social, mais vous pourrez communiquer en utilisant les outils Facebook. Et il n'y a pas notamment, il n'y a pas de pub, les données d'utilisateurs ne sont pas utilisées à des fins publicitaires ou exploitées autre part. Évidemment, venant de Facebook qui fait son revenu avec le revenu publicitaire et le ciblage publicitaire avec les données utilisateurs, il y a de la méfiance dans l'air. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent avec Messenger Kids. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est donc des experts. Des personnes donc envoyées, donc c'est un groupe de personnes qui en fait sont pas des protecteurs des enfants, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est des personnes qui vont s'inquiéter de la santé, du développement des enfants, etc., et qui ont du coup ensemble écrit cette lettre ouverte à Mark Zuckerberg pour attirer son attention sur les dangers que représente l'application Messenger Kids pour le développement de l'enfant. Et donc quand on parle de développement, c'est notamment les enfants ne sont pas encore, en tout cas en dessous de 13 ans, plus jeunes que 13 ans, notamment des pédiatres, oui, je pense que Tofu Sauvage ont participé justement à cette étude. Et donc ça s'appuie aussi sur pas mal d'études scientifiques. Et ils disent comme quoi, en dessous de l'âge de 13 ans, l'enfant n'est pas armé pour interpréter correctement les communications écrites par SMS, etc., ou envoyées sur les réseaux sociaux. Surtout, ça va réduire les échanges physique. Donc en effet, ils vont compter plus sur l'application Messenger Kids pour échanger avec leurs proches et notamment leur cercle d'amis plutôt que de se rendre chez leurs amis, de faire, enfin voilà, d'avoir des contacts physiques, humains, face to face, donc face à face, pardon, avec l'autre, avec leurs amis. Et du coup, cet âge, en dessous de 13 ans, est quand même critique, on le sait, pour établir les bases de communication, d'échange. Et c'est un vrai apprentissage par lequel il faut passer. C'est pour ça qu'on a aussi souvent des débats sur la crèche, sur le fait d'aller chez une personne ou en crèche pour améliorer les contacts humains, mettre l'enfant dans un environnement avec d'autres enfants autour de lui pour l'encourager à créer et à communiquer. Donc là, c'est intéressant parce que Messenger Kids, qui donc vise ces enfants-là, représente un danger pour le développement de la communication, des capacités de communication de l'enfant, des capacités aussi peut-être cognitives de l'enfant, où il ne va pas forcément savoir interpréter ensuite les signaux envoyés par l'autre si il perd un petit peu ses contacts face à face et ses échanges face à face avec les autres. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. L'autre chose un peu méfiante, enfin pour laquelle on a pas mal de méfiance, pardon, C'est évidemment la stratégie de Facebook. C'est-à-dire que Facebook a un vrai problème de réussir à attirer un public jeune sur la plateforme. C'est-à-dire que l'audience de Facebook vieillit de plus en plus. Et donc l'idée de créer une application dédiée aux plus petits, aux plus jeunes, permet d'habituer les plus jeunes à un service géré par Facebook, qui s'appelle certes Messenger Kids, mais ensuite, une fois qu'ils auront passé 13 ans, et ben, tout simplement, naturellement, ils vont se tourner vers Messenger, qui appartient au même groupe, où il y aura sûrement leur compte qui va pouvoir être transféré. On pourra potentiellement, est-ce qu'à ce moment-là, les données qui étaient connues dans Messenger Kids, mais pas forcément exploitées, vont devenir, et vont être exploitées ensuite dans Messenger? Bref, il y a une vraie transition, une vraie stratégie d'acquisition utilisateur et d'acclimatation des utilisateurs. C'est-à-dire que du moment où on a l'habitude d'utiliser une plateforme et un service, on va avoir la flemme, et là c'est vraiment l'effort de l'utilisateur, on va avoir la flemme d'apprendre et de passer du temps à apprendre à utiliser notre application. On va aller naturellement utiliser la nouvelle version ou la version pour les adultes, les grands de Facebook. Et c'est là aussi le danger, c'est l'accoutumance à ces services de messagerie aux dépens de la communication face à face et des échanges face à face. Alors après, il y a des choses à prendre avec des pincettes, ou en effet, c'est des études qui disent que les enfants qui font plus de sport à l'extérieur sont plus heureux que les enfants qui restent chez eux à faire des jeux vidéo. Encore une fois, chaque enfant est différent et chaque enfant se développe aussi à sa manière. Il faut pouvoir l'encadrer, l'accompagner et encadrer ses modes de consommation et ses activités. C'est-à-dire qu'un enfant qui fait que du sport dehors va peut-être développer un esprit trop compétitif, etc. ou ne va pas savoir se ménager, etc. Un enfant qui fait trop l'inverse, à faire trop de jeux vidéo, etc., va rester plus cloisonné et fermé un peu sur lui et plus timide envers les autres. Mais bon, encore une fois, il s'agit d'une notion de balance, enfin d'équilibre, pardon. Donc je ne suis pas là pour donner des leçons sur comment élever les enfants, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'être averti, d'avoir un œil averti sur ce type de service. En effet, Messenger Kids a beau être fermé, je veux dire, si l'enfant souhaite communiquer avec sa famille, les appels téléphoniques, ça existe. Voilà. Appeler quelqu'un, ça existe. Ne pas encourager l'enfant à créer un compte sur un service comme Facebook, même si c'est Messenger Kids, c'est peut-être une sécurité quand même à se garder pour les plus jeunes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom? J'ai lu que les smartphones et tablettes étaient dangereux pour l'apprentissage des enfants en bas âge. Après, encore une fois, oui, en usage excessif, évidemment que ça sera mauvais. Après, ça ne veut pas dire interdire et empêcher l'enfant de découvrir le monde autour de lui. Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que si on n'éduque pas l'enfant aux outils qui sont à sa disposition, que ce soit les smartphones, la télé, les tablettes, etc., les ordinateurs, on va élever des enfants qui vont avoir une certaine timidité avec la technologie, une peur un manque d'acclimatation aussi. Donc il faut doser tout ça avec modération. Je pense que c'est la clé, comme tu dis, Malva. Je pense qu'il est trop tard pour revenir en arrière en termes d'usage réseau communication. C'est-à-dire qu'on, je suis d'accord avec toi, Tofu, on ne pourra pas interdire l'usage des réseaux sociaux à partir d'un certain âge. Après, la question se pose de l'utilité d'avoir un smartphone à 10 ans, etc. Il y a ça aussi. C'est pas parce qu'on a envie de savoir à toute heure de la journée où se trouve notre enfant par peur qu'on doit lui mettre un tracker, un smartphone dans la main, etc. À voir. Encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons. Mais en tout cas, l'article de TechCrunch qui explique les différentes raisons pour lesquelles la lettre encourage Mark Zuckerberg à revenir sur le service et à clôturer le service Messenger Kids, il est assez intéressant et je pense qu'il met en lumière un vrai danger pour les plus jeunes. Encore une fois, ça cible les enfants de moins de 13 ans. Il y a eu un reportage sur la problématique d'attention des enfants. Ça, c'est un vrai problème, hein, de toute façon. Où en effet les professeurs sont en compétition avec les smartphones pour avoir l'attention des élèves. Apparemment, une étude montre que si l'apprentissage est interactif, il est de meilleure qualité que sur papier. Ben, Gelkita, en tout cas, les nouvelles technologies peuvent être utilisées, à mon avis, comme un outil intéressant pour captiver les élèves dans certains cas. Pas tout le temps, mais dans certains cas, ça peut être vraiment très, très intéressant. Mais en effet, comme tu dis, Francis, c'est une éducation, hein. C'est un apprentissage pour accompagner l'enfant. Jérôme, c'est affreux ce que tu dis. Des enfants avec des casques verts feront de bonnes batteries mobiles et dociles si tu branches des électrodes. Black Mirror. Oui, tout à fait, pole position. Facebook est une entrée directe dans la sphère intime de l'enfant. Ben, c'est ça aussi qui est dangereux. C'est pour ça que le fait que le service vienne de Facebook est aussi, inquiétant. Et si on arrêtait de faire des gosses, comme au Japon, ben, Jérôme, t'as la solution, là, c'est sûr. Je suis pas sûre que ça soit une bonne solution pour l'humanité, mais c'en est une. Voilà, en tout cas pour Facebook, à voir. Facebook, eux, se sont retranchés dans leur déclaration officielle, hein, concernant l'application Messenger Kids, que en effet, ils n'exploitent pas les données, que c'est pour le bien de l'enfant, pour etc. Mais bon, voilà, ils ont fait un peu un discours langue de bois, ce qu'ils n'ont, en effet, ils n'ont pas trop le choix, quoi. À voir s'il y aura une réaction un peu plus importante. Dernier article et on va parler rapidement d'une nouvelle application. Je vais quand même me désaltérer un peu. De la nouvelle application un peu expérimentale. C'est une petite expérimentation qu'est en train de réaliser Spotify actuellement. Qui se déroule donc, enfin qui se déroule, qui se passe sur le Play Store. Donc c'est une application disponible pour la plateforme Android uniquement pour le moment et uniquement pour les smartphones qui sont en Australie. Donc ça sert à rien d'essayer de chercher sur le Play Store sur vos smartphones. Vous ne trouverez pas l'application a priori puisqu'elle est disponible uniquement en Australie et elle s'appelle Stations. Et en fait, le but de cette application, tout simplement, c'est en vous connectant, parce qu'il faut toujours se connecter. En se connectant, Spotify va pouvoir récupérer les données d'utilisateurs que vous avez sur Spotify, vos préférences d'écoute, quels sont les artistes que vous préférez, les titres que vous écoutez, etc., afin de vous proposer une liste de playlists à lancer d'un clic. Donc là, le but, c'est d'avoir une interface très très épurée, comme vous pouvez le voir sur ce screenshot, sur cette capture d'écran. Où là, vous avez donc le premier écran qui vous demande de vous connecter. Vous voyez le nom de l'application, Station by Spotify. Et puis là, tout simplement, vous avez le sommaire. Une fois que vous êtes logué, une fois que vous êtes connecté, vous avez le sommaire des différentes playlists disponibles pour vous. Et d'un clic, vous pouvez lancer la playlist. Alors, si vous avez un compte, vous n'aurez pas forcément de publicité. Si vous payez, vous avez un compte premium, pardon, vous n'aurez pas de publicité. Si vous n'avez pas un compte premium, que vous ne payez pas pour Spotify, vous aurez évidemment des publicités, mais ça c'est le modèle de base de Spotify. Mais au-delà de ça, le test qui est en train de faire, qui est proposé ici par Spotify, c'est vraiment proposer une expérience de je ne fais rien en tant qu'utilisateur, je laisse Spotify gérer pour moi ma musique, parce qu'il y a plusieurs modes de consommation de musique. Et la musique est vraiment, vraiment spécifique en termes de consommation de musique et de profils assez basiques. Et je pense que vous les connaissez même dans la chatroom. C'est j'ouvre Spotify et je lance la playlist de la semaine. La weekly playlist, je crois qu'elle s'appelle. Non, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous savez que Spotify, chaque semaine, vous propose une playlist. Je crois que c'est chaque lundi, elle se met à jour. Une playlist pour vous. Qui s'accordent en fonction des titres que vous écoutez et chaque semaine va se mettre à jour. Voilà, c'est les découvertes de la semaine. Merci beaucoup, Tofu Sauvage. C'est ça, c'est les découvertes de la semaine. Et donc, vous n'avez rien à faire. C'est sans effort pour l'utilisateur. Donc, il y en a qui vont jamais passer de temps à créer des playlists, qui ne vont pas chercher des artistes, qui vont juste chaque semaine soit sélectionner une playlist dans l'accueil de Spotify et cliquer sur des playlists d'humeur, par exemple Feel Good ou Je me réveille le matin, enfin ce genre de choses, ou activité quand vous faites du sport, etc. Et d'autres qui sont plutôt là des experts pointus en musique, qui vont exclusivement faire leur propre playlist, rechercher des artistes spécifiques, bref, faire leur propre sélection de musique à écouter, et qui ne vont pas du tout compter sur les playlists automatiques de Spotify. Et donc là, c'est vraiment deux comportements, comme vous le voyez, très très opposés. Qui sont très difficiles à concilier dans une application parce que du coup il faut prévoir les deux parce qu'il y a vraiment les deux. Et donc là ce que propose Spotify c'est de mettre de côté l'expert qui a l'application Expert Spotify, l'application de base où vous pouvez créer vos playlists, chercher des artistes, s'abonner, etc. Avoir plein plein de possibilités et proposer pour les autres, ceux qui ne souhaitent pas passer du temps et travailler pour trouver de la musique. Proposer directement des playlists clés en main, prêtes à être consommées directement via l'application Spotify Stations. Donc moi je trouve ça super intéressant. J'aimerais bien pouvoir un peu tester l'interface, hein, pour être honnête avec vous. Oui, Cyrus, on en est déjà au dernier article, ouais, tout à fait. Tu as aussi le radar des sorties, ouais, tout à fait, avec les nouveautés, les abonnements, le Daily Mix. Tout à fait, il y a plein de types différents de playlists, pardon. Et donc, à voir, vous, vous êtes quoi plutôt comme comportement en termes de consommation de musique? Est-ce que quand vous ouvrez votre application préférée, vous choisissez une playlist comme ça, qui est déjà faite pour vous? Ou est-ce que vous avez toujours votre playlist que vous vous faites vous-même, pour lequel vous avez passé du temps à sélectionner les titres que vous souhaitez écouter? Est-ce que vous êtes plutôt expert ou sans effort? Les deux, me dit Bobo, Hippomonie également. Patrick, toi tu es plutôt expert parce que tu fais tes playlists. Greg nous dit les deux. Jérôme nous dit j'ai ma playlist que j'ai faite pour le sport, musique générale et musique détente. Donc toi tu fais plutôt tes playlists aussi. Geoffrey nous dit les deux. Cast Girl nous dit moi c'est selon l'humeur ou la situation. Expert, d'accord. Playlist perso aussi pour Malva, Jérôme, je sais pas. Expert pour Vacarme le Rouge. J'alterne pour Tofu Sauvage. Découverte, playlist ambiance et ma sélection, ouais. Damien, c'est sans effort. De mon côté, comme je l'écoute tous les matins, je suis sur la liste de ma semaine. Intéressant. En local, toujours les mêmes. Je mets tous les titres quand je ne sais pas quoi écouter en particulier, je la mets en aléatoire. Je mets tout. Ah, je mets tout dans titre et j'ai créé des playlists aussi. Oui, parce que vous avez carrément des titres que vous pouvez sauvegarder quelque part et ensuite vous le mettez toujours sur aléatoire et vous êtes sûr que c'est toujours des titres que vous aimez, tout à fait. Pas de streaming, ma musique est sur mon iPhone et c'est moi qui fais les playlists. Donc expert pour pole position. Ouais. Ah non, c'est intéressant, on a vraiment, vous voyez qu'on a vraiment quand même, même s'il y en a qui font les deux, on a quand même. Voilà, vraiment deux comportements très très spécifiques. Et là, bah, clairement, je pense que Spotify, ils veulent vraiment simplifier la consommation de musique pour ceux qui ne sont pas forcément experts ou qui ne veulent pas s'embêter à passer du temps à faire leur propre playlist, hein, ce qui est un vrai usage. Donc, à voir. Alors, il s'agit évidemment d'une expérimentation, hein, ça ne veut pas dire qu'ils vont la lancer demain du tout, hein, loin de là, mais en tout cas, c'est une expérimentation. Ce genre de plateforme expérimente énormément. Voilà. C'était le dernier article du jour, il est 9h03, c'est la fin du TechScope de ce matin. Je vous remercie de m'avoir suivi, vous êtes encore 198 dans la chatroom. Je vous encourage, si l'émission vous a plu, à mettre un petit pouce up pour soutenir la chaîne, si l'émission vous a plu, hein, évidemment. Et puis n'hésitez pas également à faire un tour sur Tipeee, sur la chaîne principale Nowtech, si vous ne connaissez pas la chaîne principale, parce que je sais qu'il y avait des petits nouveaux qui nous suivaient ce matin. N'hésitez pas à aller voir les contenus un peu plus léchés que l'on fait pour la chaîne et pour vous. Bah, du coup, je vais regarder s'il y a des questions Platinium ce matin. A priori, il n'y a pas de questions Platinium. Donc, vous allez pouvoir passer directement aux questions dans la chatroom. Je vais rester 5 minutes avec vous. Merci Samuel pour la confirmation. Je reste 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez, tout simplement. Très bonne journée à ceux qui nous quittent et à très vite. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom que j'essaye d'y répondre? Un aquadab pour finir. J'aime beaucoup le nom Damien pour l'aquadab. Alors, l'aquadab, hop, ça fait comme ça. Est-ce que tu utilises un casque pour tel fixe au travail? Si oui, lequel? J'ai pas de tel fixe. Voilà. Et en fait, non, j'utilise pas de casque. Et si j'utilise, c'est mon Beats X que j'ai eu à Noël. Avant, j'utilisais un autre, mais que j'aime pas du tout. Mais voilà. Mais je suis pas, voilà, je passe pas énormément de coups de fil au travail. Ça ne correspond pas à mon type de travail. Et je fais plutôt de la visioconférence que des appels. Et généralement, quand je fais la visioconférence, c'est en réunion, donc je suis pas la seule. Donc c'est pour ça que j'utilise pas forcément des écouteurs ou des casques. Voilà, la plupart du temps, c'est ça. Moi, je fais plutôt visioconférence. Avec Slack, avec. C'est quoi l'autre service qu'on aime bien là? Appear In, qui nécessite pas de compte, ça c'est pas mal. Et quand c'est avec des personnes voilà, externes. Puis on a des services aussi internes pour mieux gérer le partage d'écran et tout. Coucou Marion, un avis sur le Speed Booster Viltrox, version chinoise du Metabone Canon EF. Alors ça, je ne vais pas pouvoir te dire parce que ce n'est pas du tout mon domaine, Anzu. Je t'encourage à poser la question peut-être un matin où Jérôme sera là, où il fera le Techscope. Il pourra mieux te répondre que moi. Désolée, hein, c'est vrai que c'est pas trop ma spécialité. Comment ça s'écrit Appear In? Bah, exactement comme tu l'as écrit, Cast Girl. C'est appear.in. Et c'est exactement comme tu l'as écrit. C'est gratuit et t'as pas besoin de créer de compte. Et donc, du coup, c'est assez pratique quand tu dois te connecter avec des personnes en dehors de ton entreprise. Avantage de ton iPad Pro par rapport à un iPad classique. Jean-Pierre, pour être honnête, comme moi, je n'utilise pas les fonctionnalités pro de mon iPad, je ne vais pas pouvoir. Voilà, je ne suis pas Jérôme qui, lui, a un usage pro. Moi, je n'ai jamais eu un usage pro de mon iPad. Et au final, bah, je regrette assez hein, d'être passé à l'iPad Pro. Bon, pas tant que ça, parce que du coup, il va tenir plus longtemps, etc. Mais voilà, comme je n'ai pas un usage pro, j'ai eu du mal à justifier le prix, au final, de cet iPad-là, pour mon usage. Mais voilà. C'est un vrai test. Comment va Whisky? Ben écoute, il va bien. Whisky? Il arrive. Voilà, monsieur arrive. Je vais essayer de vous lui faire, qu'il vous fasse bonjour, mais c'est pas forcément gagné. Voilà, il est monté. Voilà le petit chat. Et vous voyez, donc il était en train de dormir. Et là, il vient vous dire bonjour ce matin. Et il est plutôt en forme, vous voyez, plutôt bien réveillé. Voilà. Un whisky de bon matin, tout à fait. Moi, je me réveille avec whisky le matin. Très bonne journée, Damien. Je relance, est-ce que tu utilises la fonction board de Feedly? Non, Tofu Sauvage, parce qu'il faut payer. Enfin, je crois, hein, je crois qu'il faut payer hein, pour avoir les tableaux. Et en fait, comme on utilise déjà Flipboard, alors moi je préfère Feedly parce que personnellement j'utilise Feedly et Jérôme utilise Flipboard, mais comme c'est lui qui a initié les journaux pour gérer le Techscope, eh ben, on continue d'utiliser Flipboard. Et ça me va. Hein. Hop, 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 tire pas trop sur le micro, whisky, t'as un gros cul. Ah et donc non du tout, j'utilise pas du tout les boards de Feedly. Et là où j'utilise le plus les boards, pour être honnête, c'est Pinterest. Non, j'ai pas de compte payant et je m'en sers pour mettre mes articles préférés par thème. Ah d'accord, je croyais que pour les boards, ça faisait partie aussi des avantages payants. D'accord, ben c'est bon à savoir. Ben, j'avoue que j'investis pas trop de temps pour ça parce que j'utilise plutôt Flipboard, puisqu'en fait j'ai déjà mon propre. En fait, ils l'ont sorti trop tard, c'est un peu le problème. Même moi, j'ai un journal sur Flipboard pour Interaction Design où je mets mes articles préférés et en fait je les mets sur Flipboard. Feedly est arrivé un peu trop tard pour ça pour moi. Très bonne journée à ceux qui nous quittent. Tu utilises une application pour programmer les tweets? Oui, comme je disais tout à l'heure, j'utilise TweetDeck. TweetDeck pour programmer. Il sort dehors, Whisky, il sortait dehors à un moment de sa vie, quand j'habitais au premier ou second étage, parce que c'était plus facile. Mais là, comme j'habite au cinquième, et que le quartier n'est pas très, très cat-friendly, on va dire, il ne sort plus. Voilà. Mais vous voyez, il a un peu de verdure là. Faut-il faire la mage iPhone qui vient d'arriver? Alors, si tu as des méfiances, Yves, je peux te dire, attends un petit peu que la mise à jour soit un peu décortiquée par les experts. Hein, et que, voilà, moi, généralement, j'attends toujours un petit peu, genre une semaine, avant de faire la mise à jour. Après, il ne faut pas non plus trop tarder, parce que généralement, les mises à jour aussi sont là pour accroître la sécurité des smartphones, enfin des devices, et généralement, c'est plutôt positif. Mais s'il 11.22, il faut la faire, c'est une mage de sécu. Ouais, voilà, il faut se renseigner. Bon, ben, si c'est une mise à jour de sécurité, il faut la faire quand même relativement rapidement. A priori, elle est stable, on nous dit. Est-ce que tu sais si Dailymotion rétablira les notifications pour une chaîne? Ça a disparu avec la refonte. Alors, j'ai pas de détails là-dessus. C'est une possibilité, mais je ne peux pas te confirmer que ça reviendra. Tu sais, le produit, il est toujours en évolution. On travaille au quotidien dessus. Et évidemment, à terme, on aimerait avoir un meilleur contrôle pour les notifications pour les différents utilisateurs. Mais je ne peux pas te donner de calendrier ou de date précise pour te dire est-ce que oui ou non ça va revenir et quand. Mais potentiellement. C'est pas une priorité en tout cas. De ce que je sais, c'est pas une priorité. Oui, les mises à jour, c'est toujours important, hein, tout à fait, quel que soit son système et son équipement. Tu as tout à fait raison, le tutoriel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée dans ce cas-là. Je vais m'en aller justement à mon travail. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h avec Jérôme pour le prochain TechScope. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi ce matin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée à tous. Bye bye!